Vous pouvez retrouver ce podcast au format vidéo sur notre chaîne YouTube Padre Blog. Bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir pour un nouveau temps. C'est un temps que vous aimez bien, le café avec. Et donc aujourd'hui, on va passer un moment assez exceptionnel avec le père Gauthier de Chaillet que vous connaissez bien. Alors c'est parti pour ce moment, une conversation passionnante avec le diable, ou sur le diable plutôt. Alors, je suis avec l'abbé Gauthier de Chaillet. Bonjour Gauthier.
Salut Jean-Baptiste.
C'est une joie de te retrouver. Tout le monde le sait, mais je le redis quand même, tu es un membre émérite et honoraire de Padre Blog. Tu as beaucoup fait pour Padre Blog. Là, tu viens de sortir un livre passionnant qui s'appelle « Petite conversation sur le diable » aux éditions MAM. C'est vraiment un livre qui se lit très bien, une belle conversation. C'est ping-pong, ça se lit vraiment comme ça. C'est très agréable. Merci beaucoup d'avoir fait ça.
Avec plaisir.
Alors du coup, on va parler sur le diable. C'est vraiment une bonne raison. Une question toute bête d'abord, c'est qui le diable et qui sont les démons?
Eh bien, le diable, c'est une créature. C'est déjà la première chose à avoir en tête. C'est pas un dieu du mal, c'est un ange. Un ange probablement le plus grand, le plus beau, le plus fort, si on veut, qui a fait un choix et qui a choisi de ne pas servir et qui, du coup, s'est retrouvé du côté obscur de la force, si on veut,
ouais,
à servir l'inverse de la création de Dieu et l'inverse de la lumière divine.
Et du coup, les démons?
Ben, les démons, c'est ceux qui ont choisi de le suivre.
C'est ça.
On doit considérer les anges comme une entité, comme un ensemble d'entités qui sont tous de la même nature. Et donc, le genre ange se divise en anges et démons. Donc, c'est ce qu'on peut appeler autrement les substances séparées. Ce sont des êtres qui n'ont pas de corps, qui sont de purs esprits. Et ils ont un choix de liberté à poser, soit de louer Dieu, soit d'aller à l'encontre de son œuvre.
Donc on est d'accord, le démon, il existe. Les diables, ils existent.
Ah oui, oui, tout à fait. C'est la tradition de l'Église est totalement unanime. Toute l'histoire de la Bible le raconte. Dieu nous révèle. Alors ça fait partie des choses qui sont purement révélées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les découvrir. La science ne peut pas les observer.
Comme les anges.
Comme les anges, exactement. Tout ce qui est de l'univers angélique, puisqu'ils n'ont pas de corps, ils échappent à la science, à notre connaissance expérimentale. Mais Dieu révèle leur existence et révèle qu'il a choisi d'avoir besoin de ces êtres intermédiaires entre nous et lui pour faire le lien de sa création.
Et du coup, on est dans une réflexion qui est déductive par rapport à ce que Dieu nous dit dans la révélation.
Absolument. Et du coup, depuis ce que Dieu nous dit, on en déduit en effet des réalités, des raisonnements, des points de logique qui nous permettent de comprendre comment fonctionnent les anges et les démons.
Excellent. Et la question, je pense que tout le monde se pose, c'est bien sûr, les anges existent, les démons existent, mais si les démons ont choisi d'être opposés à Dieu, pourquoi est-ce que Dieu permet qu'ils agissent sur l'humanité? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas parqués en enfer? Voilà, ils ont fait leur choix et puis ils sont inoffensifs. Non, au contraire, ils agissent. Pourquoi?
Alors, ils agissent. Il y a une permission divine qui est quand même un mystère très grand. C'est difficile de trancher la question en disant, ben voilà, c'est comme ça que ça doit être. Les pères de l'Église s'interrogent beaucoup sur le pourquoi de la possibilité de l'action des démons auprès des hommes. Une chose est sûre, c'est que Dieu ne veut pas les détruire. Il ne veut pas non plus les parquer, parce que Dieu ne renie jamais sa création.
Mmh.
Quand bien même sa création devient-elle mauvaise, il ne lui enlève pas de facultés. Et donc, les démons étant des anges, ils gardent les mêmes possibilités que les anges, et Dieu ne va pas les amputer de leurs possibilités d'action.
Du coup, ils agissent sur l'humanité. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est toute cette réflexion que tu mènes sur leur œuvre ordinaire dans nos vies. Bien sûr, on parle souvent des exorcismes, des choses un peu spectaculaires, mais comment est-ce que de manière ordinaire, dans la vie de toi, de moi, de n'importe qui regarde cette vidéo, les démons agissent-ils?
Ouais, les démons, ils agissent au quotidien, comme le dit l'épître de Saint-Pierre, le démon est un lion qui rugit, qui va et vient à la recherche de sa proie, et donc ils sont toujours en train de rôder autour de nous et d'essayer de nous faire tomber par des petites chutes. La manière de combattre du diable et des démons, c'est pas une manière de guerre forte.
Oui.
C'est très rare qu'ils s'attaquent de manière très, très puissante à une seule personne. C'est plutôt de la guerre par occupation, toute lente, et ils prennent position, et tout doucement, ils font sombrer ceux qui se laissent avoir au fur et à mesure.
En agissant sur l'imagination,
Ah oui, ils agissent sur l'imagination, ils agissent sur la volonté, non pas en empêchant la volonté de manière directe, mais en l'infiltrant, en poussant la volonté, en donnant des idées, en donnant des tentations. En fait, c'est la manière de la tentation. C'est comme ça, la vraie tactique du diable, c'est de faire tomber dans la tentation. Donc, il va nous pousser à agir. C'est exactement ce qu'on voit dans l'histoire toute première de la Genèse. Il vient montrer à Adam et Ève le fruit en disant « Regarde comme il est bon ». Et puis, il va agir sur leur imaginaire, sur leur déduction, en disant « Mais si vous en mangez, voilà ce qui va arriver ». Puis, il agit avec le soupçon en disant Dieu vous a dit que, mais c'est parce que Dieu va être puissant. Et toujours, les démons viennent nous pousser au soupçon, à regarder l'obscurité et à sombrer dans l'opacité.
Et comment on fait la différence entre ce qui est du ressort de notre psychologie et de ses limites et de ce qui est de leur œuvre, justement?
Alors, les démons, ils vont avoir une œuvre qui va nous pousser aux ténèbres et qui va nous enfermer dans les ténèbres. Et tout lieu de ténèbres est habité par les démons. D'accord. Je ne parle pas physique.
Donc le péché aussi.
Voilà, tout ce qui est pécamineux, tout ce qui est désespérant est forcément attirant pour eux. Ils viennent dans cette ombre-là. Et donc, on sait que tout ce qui est en nous de cet ordre-là va les attirer. Alors, parfois, ils le provoquent de l'extérieur et parfois, ils profitent de failles qui sont déjà en nous, qui ne sont pas leur œuvre, mais qui sont l'œuvre de notre histoire, du mal que d'autres nous ont fait, etc. Et ils vont venir utiliser ça. Alors, une manière de distinguer ce qui est de l'ordre du psychologique et de l'ordre de l'influence directe voilà, des démons, c'est le recours à la prière, déjà, de voir si la prière me fait goûter le fait que je pourrais sortir de cette pensée mauvaise, quand bien même je n'en sortirais peut-être pas immédiatement. Et puis, l'autre question, c'est la permanence. Nos idées, nos pensées qui peuvent être négatives, elles sont volatiles. Oui. Alors que les démons, ils ont tendance à être obsessionnels et à nous pousser à l'obsession. Oui. Et on voit ça.
Et du coup, est-ce qu'il y a des situations particulières qui ouvrent des portes aux démons? On a parlé du péché.
Ah oui. Ce qui ouvre les portes aux démons, c'est ce qui est, donc une fois de plus, hein, ce qui est sombre. Soit qui nous ait été imposé, par exemple une histoire blessée, gravement blessée, des gens qui ont été victimes de graves péchés, de viols, de choses extrêmement violentes, etc., sont hélas des gens qui ont une espèce de porosité au mal et qui attirent le diable.
C'est comme une double peine.
Exactement, c'est exactement ça, c'est une double peine. C'est tout à fait injuste à notre regard, mais c'est juste la logique de la fragilité qui fait qu'eux vont profiter de la fragilité parce qu'ils n'ont aucun courage, donc ils vont profiter de la fragilité. Et puis l'autre possibilité, c'est d'être nous-mêmes acteurs du mal et du coup d'être collaborateurs de leur méchanceté, si on veut.
Bien sûr, on parle de cette action ordinaire et puis il y a aussi tout ce qui attire plus l'attention du public, les films, le spectaculaire. Bien sûr, il y a des situations graves, exorcisme, oppression, possession. Ça existe vraiment ?
Oui. Oui, dans tous les diocèses ou dans les provinces ecclésiastiques du monde, il y a des exorcistes, donc ce sont des prêtres qui reçoivent la mission de l'évêque d'être ceux qui vont chasser le démon. Et tous les prêtres, nous avons la mission de chasser le démon également, mais en le faisant par la prière de délivrance, donc en priant pour les personnes, sur les personnes, alors que les exorcistes vont s'adresser directement au diable en lui disant de quitter les personnes.
C'est-à-dire le prêtre ordinaire ou même le baptisé, où il faut qu'il soit prêtre ?
Oui, alors, bien sûr, tout baptisé peut bénir, tout baptisé peut prier pour son frère.
Mais c'est pour les situations, on va dire, assez simples, alors que dès que ça devient compliqué, on doit passer par le
Nous, les prêtres, nous avons, par la consécration de nos mains, par le sacrement de l'ordre, nous avons, entre guillemets, un pouvoir sur le diable qui est fort, et qui est fort par tous les sacrements, et aussi par la prière de bénédiction, et tout fidèle à la possibilité d'agir au nom du Christ et avec le Christ pour faire advenir la lumière. Donc, on peut tous prier les uns pour les autres et chasser les démons, chacun à notre part. Et puis, les exorcistes sont là, eux, pour faire ce qu'on appelle le grand exorcisme, donc dans le cadre d'une possession. Donc ça, c'est le degré un peu ultime, si on veut, d'attaque du diable.
Mais est-ce qu'on doit avoir peur de pouvoir tomber dans ce genre de situation-là ? Enfin, est-ce que ça peut nous arriver à moi, à toi ?
Une chose importante, c'est que la peur, ça fait partie des obscurités qui attirent le diable. Et donc, il faut chasser la peur de manière absolue. Être parfaitement confiant dans le fait que Jésus est vainqueur absolument. Et le domaine du diable ne peut pas nous enfermer dans une espèce d'angoisse, dans une absence de sérénité, au contraire. Et moi qui ai beaucoup creusé ce sujet-là, j'en ai conçu énormément d'espérance, parce que je me rends compte que, quelles que soient les stratégies qui sont fortes, quelle que soit la puissance violente du diable, le Christ est véritablement infiniment plus fort. Et donc, il ne faut pas avoir peur.
Il y avait des gens qui donnaient cette image que c'était comme un gros chien, mais qui était tenu en laisse.
Oui, c'est ça. Bien sûr, les pères de l'Église parlent souvent avec des images de bêtes féroces et des images de ceux qui sont domptés, qui sont tenus en respect par la fragilité. C'est ça qui est très paradoxal, c'est que le diable est effrayé par l'innocence. Et donc, un petit enfant est infiniment plus fort contre le diable qu'un grand intellectuel.
Je te propose maintenant une suite de questions qui ont été posées directement par les membres de la communauté de Padre Blog quand on a annoncé qu'on allait faire une vidéo sur le diable. Donc, on va les faire en mode un peu ping-pong. Mm-hmm. Première question, comment le diable a-t-il pu choisir de renier Dieu ?
Par orgueil. Il a voulu ne pas servir et il a choisi d'être le premier dans un ordre inférieur plutôt qu'un parmi d'autres dans un ordre supérieur.
Et du coup, peut-il changer d'avis ?
Non, parce que dans l'éternité où sont les anges qui n'ont pas de corps, il n'y a pas de succession des actes, il y a un seul acte posé.
C'est-à-dire que c'était un acte posé en pleine conscience, en pleine connaissance.
Et en pleine en absolue impossibilité de succession. C'est vraiment ça la clé. C'est que métaphysiquement, quand il n'y a pas de corps, il n'y a qu'un seul acte.
Oui.
De la même manière que quand on est au ciel, on est dans la pure louange.
Oui.
Eh bien, eux, ils ont posé le choix de la pure détestation.
Oui.
Et donc, ils ne peuvent pas revenir en arrière.
Et il y a des gens qui demandent, mais ça c'est hyper gentil, peut-on prier pour qu'ils redeviennent bons ?
Non.
Bah, du coup, non, ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien. On ne prie pas ni pour le diable, ni pour les âmes qui sont en enfer.
Oui, parce que c'est déterminé.
Irrévocable.
Comment discerner si l'intuition qu'on a vient de Dieu ou de Satan ?
L'intuition qui vient de Dieu, elle est toujours porteuse de paix et de joie. L'intuition qui vient du diable, elle est toujours synonyme de tristesse et d'angoisse. Notamment dans la grande sagesse de Saint Ignace de Loyola, dans les exercices spirituels, il insiste beaucoup là-dessus, sur le bon esprit, le mauvais esprit. C'est vraiment la joie qui conduit à Dieu, toujours.
Question suivante, le diable continue-t-il d'agir dans notre vie une fois qu'on a démasqué son action ?
Ah oui, au contraire, ça peut l'exciter, ça peut le renforcer pour un temps. Et ensuite, quand la lumière, non pas de notre intelligence, mais la lumière de Dieu est faite sur son œuvre, là, il est chassé.
C'est-à-dire que plus on progresse dans la vie spirituelle, d'une certaine manière, plus on excite le diable.
Oui, plus on l'excite et plus on est en mesure de le chasser. C'est paradoxal. Oui. Mais c'est, une fois de plus, j'insiste sur le fait que ce n'est pas notre intelligence qui va permettre de le chasser. Donc, ce n'est pas une découverte psychologique, c'est une découverte spirituelle. Donc, c'est Dieu en nous qui chasse le diable.
Et on le voit hyper bien dans les tentations de Jésus.
Bien sûr.
C'est pas l'intelligence au sens pur.
Exactement. C'est la pure intuition spirituelle. Et on voit bien, comme tu disais, que les grands spirituels, on le sait bien, beaucoup de grands spirituels vivent de grands combats avec le diable. Donc, ce qui est la preuve que c'est pas parce qu'on est très saint qu'on est protégé du diable.
Ouais.
C'est pas non plus parce qu'on est très saint qu'on est nécessairement abîmé par lui. Il est totalement irrationnel. On peut pas le prévoir. On ne sait pas quelles sont ses stratégies. On ne sait pas sur qui il va s'acharner.
Et en réalité, il est complètement le néant.
Oui.
Donc, en réalité, on ne peut pas lui parler. On ne peut pas commencer à s'adresser au néant, c'est déjà avoir perdu.
Ah oui, c'est radicalement interdit.
Ouais.
On ne parle jamais. Alors, parce qu'il est néant, oui, tu as raison, mais surtout parce que c'est un menteur.
Ouais.
Jamais il ne dit une once de vérité.
Ouais.
Il n'y a pas une once de vérité en lui. Il est hors de question de négocier avec lui.
Dernière question des auditeurs. Comment reconnaître l'action du diable dans notre vie sans tomber dans la superstition ?
Eh bien, déjà, donc voilà, c'est très bien de ne pas vouloir tomber dans la superstition. Le diable n'est pas partout.
Oui.
Il n'est pas à l'origine de toutes nos mauvaises actions. On est assez grand pour faire le mal tout seul.
Ouais.
En revanche, on n'a jamais tort de demander à Dieu de nous protéger de lui. Donc moi, je suis de ceux qui considèrent qu'il ne faut pas chercher à savoir toujours quels sont les ressorts profonds des événements de notre vie et de notre action. On n'en sait rien, on comprendra au ciel. La seule chose, c'est qu'il faut demander à Dieu qu'il nous protège et donc être avide de la prière de délivrance et de prier Saint-Michel Archange et de prier le Seigneur en disant toujours délivre-moi, protège-nous du mal, délivre-nous du mal.
Et comme on le dit à chaque Notre Père, si on y met en plus un peu de volonté et un peu de charité, effectivement, c'est très puissant. Tu finis ton livre par un chapitre qui s'intitule « Regardez l'humilité de Dieu » qui reprend le très beau chant là, qu'on a tous en tête et qui du coup finit cette réflexion, parce que c'est assez puissant intellectuellement évidemment, mais par quelque chose qui vient aussi toucher notre affectivité et nous mettre dans une ambiance très douce, très maternelle presque, avec, on voit pas loin la Vierge Marie. Pourquoi finir par l'humilité de Dieu ?
Parce que le diable est dans l'orgueil toujours, et donc c'est toujours l'humilité qui vient contrecarrer puissamment l'orgueil du diable, et ce sera toujours par l'humilité qu'on pourra se battre contre le mauvais. Et le Seigneur nous pousse à vivre le combat spirituel et le combat décisif qui passe contre le diable, à le vivre avec une simplicité du cœur, une humilité tranquille qui se repose sur lui. Quoi qu'il arrive, on ne sera pas les vainqueurs, c'est lui, c'est le Seigneur. Et donc l'humilité nous permet de nous mettre dans sa main à lui, et du coup de savoir que la victoire est certaine.
Et du coup de sortir aussi de ses inquiétudes, de ses pesées, de plus ou moins de conséquences, plus ou moins de rapports de force. Non, au contraire, on est en lui, c'est tout.
Et de sortir de la tentation d'orgueil de connaissance.
Oui.
C'est sûr qu'en écrivant un livre sur ce sujet, moi-même, je vois bien qu'il y a un enjeu de ne pas me sentir une espèce de spécialiste. C'est vraiment un lieu où il faut se reconnaître tout petit et dire, on ne dit que quelques petites choses. Et le mystère suffisant, c'est que Dieu est plus fort, c'est tout.
C'est le dernier mot de la vidéo. Merci beaucoup Gauthier, merci à tous d'être là, merci à tous de suivre ces vidéos. Je sais qu'elles vous font du bien, on en aura d'autres bientôt. On va essayer de trouver des gens super intéressants pour continuer à prendre un café et à s'instruire. Donc bonne journée à tous et à bientôt.